Olivier qui vend sa Surface Pro 3. Désolé, hein, je vous intercepte. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Déjà 26 personnes dans la chatroom, 5 sur 5, nickel, on va pouvoir commencer. Attendez, je baisse un tout petit peu la luminosité de mon iPad. Voilà, voilà. On va remercier nos tipeurs ce matin. On remercie Guillaume, Educatux, Zark84, MMO79 et Mathias. Merci à vous les tipeurs, sans qui nous ne serions pas là. En attendant que la chatroom se remplisse, je vous propose qu'on attaque le sommaire. Merci Samuel de mettre le lien du sponsor du mois, on en reparlera tout à l'heure. Alors, de quoi on va parler ce matin? Il y a beaucoup de versus ce matin. J'ai trouvé beaucoup de combats. Premier combat, et ça sera le premier sujet, Waymo versus Uber, le procès probablement du siècle, un procès dont on parlera certainement longtemps pour la domination des voitures autonomes. On parlera également des banques versus le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Décision de quelques banques majeures aux États-Unis qui risquent de faire tache d'huile. On en parlera tout à l'heure. On parlera également des ventes de l'Apple Watch qui, a priori, ont explosé. Pas les Apple Watch, hein. N'allez pas répandre un bad buzz comme ça. Je sais, ça ferait beaucoup de clics de dire « Ah, les Apple Watch explosent !» Et après, vous commencez votre article en disant « Oui, les ventes de l'Apple Watch explosent ah, !» C'est comme ça que vous feriez si vous aviez un blog tech. moi, c'est ce que je ferais. Hein. Tiens, je vais faire une vidéo. L'Apple Watch explose. Putain, je suis sûr que je fais une vidéo comme ça. Oh, le nombre de vues. Pouf! Pouf! C'est un peu le bruit d'ailleurs d'une Apple Watch qui explose, ça. Pouf, c'est une petite batterie, quoi. Bref, on parlera également d'Amazon qui a trouvé qui dépose un brevet pour que Alexa, mais fais-le, mais pour que Alexa ignore le mot Alexa. Bah, pourquoi? Bah, je vous expliquerai dans l'article. On parlera également d'employés de Facebook et de Google, d'anciens employés de Facebook et de Google, qui s'allient pour faire du lobbying anti-tech addiction. Intéressant ce qui se passe. On parlera également d'Instagram qui lance un mode texte pour ses stories. On parlera de Snapchat qui ouvre une section e-commerce dans son application. On parlera aussi du combat entre Apple Music et Spotify, dont d'ailleurs la nouvelle fonctionnalité de Spotify qui arrive sur Discord. Vous inquiétez pas, hein, il y a beaucoup d'articles, mais il y en a que je vais traiter en brève. J'essaye quelque chose de nouveau ce matin. Et on terminera bien sûr par la bande-annonce de Solo, que vous avez peut-être déjà tous vu ce matin. J'ai fait un petit sondage sur Twitter. Hein, vous inquiétez pas du nombre d'articles. On va essayer les choses différemment. Voilà. Je vois déjà la Timothée qui est là. Mon Dieu, il s'est mis une douzaine d'articles. Il va terminer à 10h30. D'abord, je ne peux pas, parce que j'enchaîne direct avec le rendez-vous tech, que j'enregistre en plus tout seul, parce que Patrick, il est en train d'enlever du vomi sur les murs. Hein. Donc, je ne peux pas être en retard aujourd'hui. Ça ne m'empêchera pas de l'être, mais je ne peux pas être en retard. Il faut être optimiste le lundi. En tout cas, vous êtes déjà 165 dans la chatroom, un matin qui démarre bien. On va commencer tout de suite avec le premier. Mais non, nous non plus, on ne peut pas rester 12 heures. Ben non, c'est clair. Jérôme, faire des brèves, j'attends de voir. Je te sens sceptique là, Damien. Bon, allez, on commence effectivement par le procès. Pourquoi je dis que c'est probablement un des procès du siècle? Parce que je pense qu'on en parlera longtemps des résultats de ce procès, puisque c'est vraiment un procès au sommet entre Waymo et Uber. Et ça va vraiment définir l'avenir de la voiture autonome, qui va se faire le plus d'argent avec la voiture autonome. Alors, petit rappel des faits, parce qu'on vous en a déjà parlé. Waymo, c'est Alphabet, c'est Google, c'est la voiture autonome de Google, hein, pour être clair. Et Uber, rappel des faits, toute l'accusation, c'est Waymo l'attaquant. Waymo attaque Uber en disant Vous avez débauché Anthony Lewandowski, qui est notre ancien ingénieur, qui est parti avec tous les secrets industriels. Vous avez tout récupéré et c'est dégueulasse. Et je te colle un procès au pénal. L'histoire, alors je vous conseille d'aller lire l'article que j'ai mis dans le Flipboard, parce que vraiment, c'est un article de Ars Technica. Il va vraiment en profondeur sur cette histoire et toute l'historique. Et c'est passionnant. Je ne peux pas vous faire en entier parce que ça durerait trop longtemps, mais on apprend vraiment les débuts de la voiture autonome. On voit en 2000, je crois que c'était en 2004 ou en 2006, une première course de voiture autonome où Sergueï s'était rendu avec chapeau et lunettes de soleil, Sergueï de Google, pour pas se faire reconnaître. Preuve déjà que Google, effectivement, s'intéressait très très tôt à cette technologie. Ensuite, tout l'historique où, globalement, on voit un petit peu hein, comment ça se passe. Des startups se montaient autour de la voiture autonome. Il y a des clauses de non-concurrence. Oui, bon, après, on ne va pas rentrer dans les détails techniques du dossier, mais où on voit effectivement des startups se monter, rachetées par Google, qui faisaient travailler les uns qui repartaient dans des startups. Enfin, il y a vraiment eu des vases communicants. Tout ça pour aboutir effectivement au fond du problème actuel, qui est que ce fameux Anthony Lewandowski, qui travaillait pour Waymo, est parti monter une start-up. Il est parti avec plus de 9 terras de données sur des disques, des données qui étaient hautement confidentielles. Lui dit qu'il a pris ces données pour protéger un avoir qu'il devait avoir de 120 millions de dollars que Google devrait lui, que de, devait lui verser Google. Et comme par hasard, quelques mois après avoir monté sa start-up a été rachetée par Uber. Uber qui dit, mais non, 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 on n'a pas du tout utilisé ces 9 gigas de données, ces 9 téra de données pour mettre au point notre système de voiture autonome. Là où il faut bien comprendre que les enjeux sont énormes. Et que on aurait vite fait aussi de dire, bon, bah, c'est Google les gentils là-dedans et c'est Uber le méchant, parce qu'on a tellement l'habitude que Uber soit le méchant ces derniers temps, que voilà, toutes les histoires Uber qu'il y a eu, on sait que c'est maintenant, on le soupçonnait fortement, mais on a la confirmation maintenant que Uber, en tout cas, dans son ancienne présidence, était une entreprise qui n'hésitait pas à utiliser certaines méthodes. Plus ou moins légal, voire carrément illégal, avec une culture d'entreprise qui était plus que douteuse, pour arriver à ses fins, en fait. C'était vraiment une entreprise dont la devise, c'était la fin justifie les moyens. Tout est bon pour réussir et être les premiers. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui dans le marché, et pourquoi ce procès est hyper important, c'est parce que Google part avec certains avantages technologiques. Mais par rapport à Uber, ils ont quand même un sérieux désavantage. Uber a mis en place, déjà, mine de rien, tout un système des transports. Aujourd'hui, quelque part, Uber, il lui suffit, je sais que ça va en choquer certains, mais c'est ce qui risque de se passer, suffit de remplacer ses chauffeurs humains par des voitures autonomes. Ils ont déjà tout le système de les gens ont l'habitude maintenant d'utiliser Uber pour se transporter en transport urbain d'un point A à un point B. Donc, il ne leur reste plus qu'à mettre finalement les véhicules autonomes. Et là, c'est jackpot. Quelque part, Uber, et Kalanis ne s'en est jamais caché, Uber a été construit pour ça, pour les voitures autonomes. Et pour Kalanis, depuis le départ, le passage par des chauffeurs humains, n'est qu'une phase transitoire. Et ça, je dirais que les chauffeurs Uber doivent être au courant, en tout cas j'espère qu'ils le sont, qu'ils seront, dès que ça sera au point, ils seront remplacés sans état d'âme par des véhicules autonomes. Et ça va mettre pas mal de monde sur le carreau. C'est un autre débat. Je ne veux même pas rentrer dans ce débat-là. Là, on est dans cette affaire-là. Donc, quelque part, Google a tout intérêt à tuer Uber dans l'œuf. parce que ça représente un gros danger pour Google, pour l'arrivée sur ce marché, vu qu'ils ont un avantage qui est vraiment, ils n'en sont pas conscients les chauffeurs. Ouais, je pense, hélas, qu'ils n'en sont pas tous conscients. Bref, là, Google tient une occasion en or, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus, enfin, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Google, à travers ce procès et Waymo, a tout intérêt à attaquer très très fort. Parce que là, si la résultante de ce procès, c'est que Uber a vraiment copié les données et utilisé les données de Waymo pour mettre au point leur véhicule autonome, ils vont se prendre, là c'est même plus une amende, c'est un truc qui peut couler Uber, vraiment. Sachant qu'en plus, les choses ne sont pas si simples, parce qu'on pourrait se dire, bon, alors, il y en a deux sur le ring, et ça va être soit Google, soit Uber qui va sortir vainqueur de ce combat. C'est pas si simple, parce que vous avez aussi les fabricants de voitures, avec General Motors en premier, qui n'ont pas dit leur dernier mot, parce que pour faire des véhicules autonomes, il faut construire tout le système autonome, mais il faut quand même des véhicules. Et ça, pour l'instant, Uber et Waymo, enfin Google, n'ont pas vraiment réussi à signer des partenariats vraiment flagrants avec les constructeurs automobiles qui essayent le plus vite possible de construire leur propre système autonome. Il faut comprendre que tout ça est une très grosse course de vitesse, qu'elle le dire, et que les premiers arrivés seront probablement, enfin peut-être pas, on verra. Mais ce n'est pas forcément une règle, les premiers arrivés, premiers servis. Mais c'est un énorme bras de fer pour un marché qui va être énorme. Et ce marché dépasse très loin le marché de l'automobile. C'est le marché de la transportation. C'est-à-dire que quand on aura des véhicules autonomes, et pour moi, en tout cas, ça ne fait aucun doute, les véhicules autonomes, en tout cas en ville, vont débarquer en masse, et que les gens ne verront plus du tout l'intérêt de s'acheter une voiture pour eux, puisque pour aller d'un point A à un point B, il suffira d'un véhicule autonome. Ça va être des marchés, ça va pas tellement être un marché sur l'achat du véhicule lui-même, mais sur les transports. Et ça peut même être un concurrent très très sérieux au transport en commun quand on y réfléchit. Ça peut complètement bouleverser la manière qu'on a en attendant la téléportation, on est bien d'accord, de se déplacer d'un point A à un point B. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un procès qui va être hyper, hyper important et dont on parlera certainement longtemps après, puisqu'il va façonner le monde de demain, en tout cas en termes de sociétés qui vont réussir là-dedans. Apple a renoncé, c'est pas exactement ça. Je pense que Apple n'a pas complètement abandonné, mais se concentre sur la partie software. Ils ont probablement abandonné la partie hardware, mais en software, à mon avis, Apple n'a pas dit son dernier mot. Parce que si vous suivez bien la stratégie Apple ces derniers temps, ces problèmes de véhicules autonomes vont aussi poser des questions de confidentialité et de tracking, et que Apple est en train de prendre un positionnement très confidentialité, protection de la confidentialité, et ils auront certainement une carte à jouer dans le véhicule autonome. On verra bien. Amazon n'est pas vraiment sur ce marché, en tout cas officiellement. Mais rien ne les empêche de racheter quelque chose. Donc, on verra bien. En tout cas, c'est quelque chose qui va se dérouler. Et anecdote qu'on apprend à la fin, qui est assez intéressante, c'est que le juge qui est chargé de l'affaire, juge vénérable puisqu'il a 74 ans, je crois. On pourrait dire, oh là là, le vieux crouton, il va rien comprendre. Eh bien, détrompez-vous. Ce juge, et c'est intéressant, est quelqu'un qui sait coder. Il a jugé des procès très importants dans la tech, notamment entre... Ah, bien sûr, je ne vais pas retrouver la ligne. Mais bon, il a jugé des trucs très importants, il s'y connaît en code, et aussi, et ça c'est important, il s'y connaît... Ah oui, il a jugé Oracle versus Google. Et il a des connaissances aussi en photo et en optique, puisque c'est son hobby à côté. Et ça, c'est hyper important parce qu'une des choses qui va être au cœur du procès, c'est justement tout le système LIDAR, les radars avec les optiques qui vont servir pour les voitures autonomes. Donc, il a vraiment de vraies connaissances sur le dossier. Ça va pas être un... Ça risque d'être un procès très intéressant à suivre et un gros, gros bras de fer avec beaucoup d'avocats payés très, très cher. S'il s'y connaît en code, c'est très bien, mais bon, c'est pas ce qu'on lui demande. Faux, faux. Ça va être un procès, en tout cas, toute la partie sur les données que l'ingénieur aura pris en partant de chez Google, enfin de chez Waymo, et qu'il aurait éventuellement transmis à Uber. Y a énormément de programmes, de codes, de lignes de code, et il faut savoir de quoi on parle quand, vous savez, les notions de propriété intellectuelle sur des notions de code. Il y a intérêt à savoir de quoi on parle, quoi. Faut bien que le juge comprenne de quoi on lui parle un minimum. Bah ouais, mais là, c'est loin d'être le cas sur pas mal de procès. Hein. Je n'ai que du respect pour nos chers juges, mais bon, enfin bref, on ne va pas commencer sur un débat sur la justice, mais en tout cas, voilà, ça va être probablement, il va falloir suivre, il va y avoir justement des gens appelés à la barre assez prestigieux, et on devrait réentendre parler de Kalanick, puisqu'il devrait venir témoigner aussi à la barre. Voilà, voilà pour la première news et nous allons parler de notre sponsor officiel parce que c'est le moment de nos annonces. O'Clock.io, donc on a accueilli vendredi. O'Clock.io, qu'est-ce que c'est ? C'est une solution pour que vous puissiez devenir développeur web si vous le souhaitez. C'est une formation live en fait, donc une formation à distance mais intensive. C'est-à-dire pendant 5 mois, vous aurez vraiment des cours. Alors, il m'a expliqué, ça va être de 9h du matin, mais il faut être là au cours à 9h du matin. En gros, vous branchez votre live. Ce n'est pas des cours que vous pouvez regarder quand l'envie vous en prend. Vous assistez à des cours en live dans lesquels vous pouvez interagir avec le prof, poser des questions, etc. C'est vraiment des cours qui vont vous prendre la journée. Hein. Ce n'est pas des trucs que vous pouvez faire en plus d'un boulot à côté. Mais c'est 5 mois intensifs avec à la clé un diplôme officiel et surtout de bonnes chances de trouver un bon job. Alors, je sais qu'une des premières questions qu'on m'a posées, c'est le coût de cette formation. Alors, il faut savoir que cette formation peut être financée grâce à de nombreux dispositifs, le CPF, le CIF, l'AIF de Pôle emploi, les fonds d'assurance formation, les régions, etc. Le coût des formations sont de 6 300 €. Et ils peuvent être pris en charge partiellement ou intégralement sur étude de votre dossier. Donc, voilà, c'est une vraie formation qui coûte cher, mais pour laquelle vous pouvez demander des aides à la formation, ne serait-ce que par le Pôle emploi ou d'autres dispositifs à l'aide à la formation. Il faut savoir aussi, et ça je laisserai les gens de chez O'Clock vous expliquer exactement, mais si aucun financement n'est possible pour vous, ils ont une solution qui s'appelle la faute à O'Clock, c'est le hashtag qu'ils ont mis, où vous ne les payerez qu'après avoir trouvé un job. Donc, ils s'engagent avec vous. Donc, ils s'engagent avec vous. Vous ne les payerez. Alors, il faut aller voir les conditions. Hein. Il y a des conditions assez particulières. C'est pour ça que je les laisserai vraiment vous expliquer ça en détail. Mais vous pouvez, en quelque sorte, demander un crédit à O'Clock pour suivre votre formation. Avec, vous ne les payerez qu'à partir du moment où vous aurez trouvé un job. Donc, voilà, si c'est une formation qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller poser des questions chez O'Clock.io. Je vois qu'il y en a certains qui disent « Ouais, mais à ce prix-là, autant faire Epitech et tout ça ». Ça s'adresse aussi à des gens qui sont sortis des cursus, qui ne peuvent pas passer non plus un an à réapprendre un métier ou à apprendre un nouveau métier. Là, 5 mois intensifs pour avoir une formation qui peut déboucher sur un diplôme d'État et devenir développeur web, c'est, je dirais, une autre façon aussi d'envisager la formation. Il y en a qui ont des problèmes de son. Non, on me dit 5 sur 5. Donc, relance ton app, ça doit venir de ton application. Voilà en tout cas pour notre sponsor officiel de ce mois, O'Clock.io. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à aller leur poser à eux. Voilà. Et n'hésitez pas à dire que vous venez de notre part aussi. Hein. On n'a pas de lien d'affiliation. Je vous le précise, vous savez que j'aime bien préciser les choses. On n'a pas de lien d'affiliation. Vous tapez simplement oclock.io. Vous allez voir, mais n'oubliez pas de glisser un petit mot que vous venez de notre part. Ça permettra à eux de mesurer si de faire de la pub sur Techscope, c'est intéressant pour eux. Hey, ah oui, il y a un mail, Samuel. D'accord. Alors, le mail, c'est hey, H-E-Y, hey. @oclock.io. N'hésite pas, Romain, à aller leur poser des questions. Hein, si vous avez des doutes, et c'est bien normal, hein, allez voir leur site. Moi, je le trouve très bien fait et très pédagogique. Moi, j'y connais rien, donc je ne saurais pas vous dire après si c'est une formation effective ou pas. Je me dis que s'ils s'engagent à ce que vous les payez, qu'après que vous ayez trouvé un boulot, ils ont une certaine confiance en eux et dans la qualité de leur formation. Après, reste à voir. Allez, on continue dans les articles. Alors, vous avez peut-être lu un certain nombre d'articles sur ce qui se passe encore avec le Bitcoin et les crypto-monnaies sont assez basses ce matin, quoique. Attendez, je vais aller checker. J'avais l'impression que c'était en train de remonter. Je crois que ça a remonté de 200 $ depuis le plus bas qui était vers les 7 000 $, 7 500. Non, là, il est à 8 144. Non, attendez. Je vais aller sur ce Twitter-là. Il est actuellement... Il y a une heure, il était à 8 293 $, le Bitcoin. Donc, il y a pas mal de choses. Bon, on a déjà parlé, effectivement, des histoires vendredi de choses. Mais là, il y a un coup qui risque de faire assez mal aux crypto-monnaies, encore. C'est que plusieurs banques majeures aux États-Unis, donc Bank of America... et également Citigroup et d'autres qui vont peut-être l'annoncer ont interdit d'utiliser leur carte de crédit pour acheter des crypto-monnaies. Donc vous ne pourrez plus, on s'en fout, nous on est en France, mais peut-être qu'après des banques, on est en France, enfin on n'est pas aux États-Unis, mais peut-être que d'autres banques vont emboîter le pas, c'est un signal. Alors, il y a à boire et à manger dans cette annonce. Il faut bien comprendre que les banques n'ont pas complètement intérêt à ce que les crypto-monnaies fonctionnent sans elles. Donc il y a un bras de fer. Oui, bien sûr, une banque peut décider ce que tu as le droit d'acheter ou pas avec ta carte de crédit. C'est la banque qui te fait crédit sur une carte de crédit. Donc, si une banque décide que des achats sont trop hasardeux avec ta carte de crédit, ils peuvent te dire « vous n'avez pas le droit d'acheter ça ». Tu peux faire ce que tu veux de ton pognon, mais tu ne peux pas faire ce que tu veux avec une carte de crédit d'une banque. Donc après, à toi, je pense qu'après, tu peux faire des virements et tu fais ce que tu veux de ton argent. Mais une carte de crédit, surtout aux États-Unis, en France, c'est pas pareil. Mais aux États-Unis, une carte de crédit, ça veut vraiment dire que tu achètes à crédit. Hein, ça veut pas dire que tu achètes par rapport à l'argent que tu as. Ça veut dire que tu achètes et tu payes en fin de mois ou tu prends un crédit à la consommation, ce genre de truc. Vous avez déjà vu les Américains, ils ont des tonnes de cartes de crédit et ils vivent à crédit. Ah, d'ailleurs, un des problèmes des États-Unis. Hein. Là où il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, il y a un bras de fer, on va dire, entre les institutions, les banques et les crypto-monnaies. Et que quelque part, quand vous entendez ce discours, il faut absolument que les crypto-monnaies soient régulées, ça va dans l'intérêt, quelque part, des gouvernements, des banques et des États. Tout le monde a des intérêts là-dedans. Hein. Mais après, là où les banques prennent cette décision, c'est vu le yoyotage Le yoyotage actuel des crypto-monnaies, attention, je ne suis pas de ceux qui sont en train de dire que les crypto-monnaies sont en train de chuter parce qu'elles ont perdu 50% de leur valeur. C'est simplement, elles yoyotent très fort. Je ne suis pas en train de dire qu'elles ne vont pas remonter très fort aussi derrière. C'est peut-être c'est peut-être une baisse temporaire. Je n'en sais rien. Honnêtement, je ne me proclamerai absolument pas spécialiste des crypto-monnaies. Et en plus, les spécialistes des crypto-monnaies, en tout cas ceux que j'estime un peu sérieux, disent nous non plus, on ne sait pas. On ne sait pas. Là, il y a un moment, quand tu joues à la roulette, mon gars, on peut pas te. T'as des stats, mais tu peux pas être sûr de gagner ou sûr de perdre. Hein. Et actuellement, quand même, les crypto-monnaies ont un côté très. Tu peux pas être sûr de ton coup, mais tu peux pas être sûr de rater ton coup non plus, actuellement. Peut-être que de les acheter à 8 000 $ ou 7 000 $, c'est le truc qu'il va falloir faire, sinon vous allez pleurer dans 3 ans. Mais peut-être que ça va descendre plus bas, on n'en sait rien. Mais ce qu'il faut bien comprendre, le vrai risque pour les banques actuelles, c'est de reproduire les junk bonds, enfin tous les problèmes qui ont créé le crash boursier de 2009, c'est-à-dire prêter, vu que actuellement c'est la mode d'acheter des crypto-monnaies, et je peux vous dire qu'aux États-Unis, au Japon, dans d'autres pays, des particuliers sont en train de s'endetter pour acheter de la crypto-monnaie. Et des baisses, justement, conséquentes et importantes de la crypto-monnaie peuvent créer un phénomène d'achat et de gens qui s'endettent en disant oh, « c'est une occasion que je dois absolument pas rater. Allez, il faut que j'achète. Bon, j'ai pas assez d'argent pour en acheter. C'est pas grave, je prends un crédit. » Ça, c'est hyper, hyper risqué. Comme je vous ai dit, le seul conseil que je me permettrais de vous donner sur les crypto-monnaies, mais vraiment c'est le seul, c'est surtout ne pas acheter des crypto-monnaies à crédit. Alors là, quand on voit qu'il y a des gens qui sont en train d'hypothéquer leur maison pour acheter des crypto-monnaies, là, ça va vraiment être des cochons qu'on égorge. Et de n'y investir que de l'argent dont vous n'avez pas besoin. Et tous les sites un petit peu sérieux sur l'investissement en crypto-monnaies vous diront ça ou devraient vous dire ça. Attention, crypto-monnaie, ça peut tout. Voilà, c'est pas. Ne faites pas votre nabila, quoi. C'est absolument pas un placement sûr. C'est un jeu risqué. C'est un jeu de patience aussi. Il faut être prêt à tout perdre. Sinon, vous ne pourrez pas gagner. Oh, c'est des histoires qu'on voit, hein, Mélanie, de gens qui auraient hypothéqué leur maison. Je n'ai pas de source à te confirmer. Mais de gens qui seraient en train de s'endetter très fortement pour acheter des cryptos. Le problème, je vais encore le dire une fois, c'est tout le danger de toutes ces pubs autour de la crypto et cet effet de mode, Nabila et tous les autres, hein, que ce soit les influenceurs, des youtubeurs et tout ça qui vous disent acheter de la crypto. D'abord, la plupart de ces gens-là ont un intérêt direct à ce que vous achetiez de la crypto qui n'est pas lié à la crypto. C'est-à-dire le fait que vous achetiez des cryptos par la plateforme qu'ils vous recommandent, eux vont leur rapporter du vrai argent directement. Hein. Ils vont pas se payer en crypto. Hein. Ils prennent pas le risque avec vous, entre guillemets. Ça, c'est la première chose à comprendre. La deuxième chose, c'est que, et c'est ce qui m'inquiète le plus là-dedans, c'est que des gens qui sont déjà dans des états financiers fragiles, qui sont dans des situations financières risquées. Il n'y a qu'à les voir remplir des grilles de loto, qui quelque part, attention, pour moi, le loto, c'est aussi un grand scandale. Les jeux d'argent, d'une manière générale, sont un truc hyper dangereux, parce que quand on n'a plus d'espoir et quand on est vraiment au fond du trou au niveau financier, on a tendance à prendre de très mauvaises décisions et à vouloir, parce qu'on n'a pas trop le choix, espérer gagner de l'argent facilement. Et à force de vanter les performances quasi magiques des crypto-monnaies, on peut attirer cette catégorie de personnes à suracheter en croyant qu'ils vont retourner par un coup du sort leur situation et avoir une vie meilleure. Et généralement, et c'est très triste à dire, c'est les premiers cochons qu'on égorge. Je vous rappelle hein, l'imagerie des cochons qu'on égorge. Vous savez que dans tous les actifs et l'investissement sur les actifs, il y a les taureaux et les ours qui se font de l'argent soit à la hausse pour les taureaux, soit à la baisse pour les ours. et au milieu, il y a des cochons qu'on égorge. Et ça a toujours fonctionné comme ça, ça fonctionnera toujours comme ça, c'est terrible, et c'est bien pour ça que ne soyez pas un cochon qu'on égorge. C'est tout ce que je peux vous dire. Si vous êtes... Allez-y en âme et conscience, les yeux ouverts, mais faites gaffe à ce que vous faites. Ça ne veut pas dire ne pas le faire, mais faites gaffe à ce que vous faites. Non, en crypto, langue de geek, les baleines, c'est ceux qui possèdent énormément de crypto, et notamment le Bitcoin, c'est un de ses problèmes, c'est qu'il y a 1000 baleines à peu près qui possèdent une grande partie des Bitcoins. Et pour moi, c'est un des problèmes du Bitcoin. On avait dit bref, laissons-lui sa chance. Putain, il est quelle heure là? 8h31. Ah, vous me stressez pour rien, c'est bon. Finger on the nose. Pour vous dire, au niveau bourse, moi j'achète quand il y a une crise. Moi, c'est vraiment mon truc. En gros, moi j'ai acheté en 2009, quand tout s'est effondré. Voilà, moi c'est ma technique. J'attends que. En fait, j'achète quand plus personne n'en parle ou quand tout le monde te dit de ne pas acheter. Moi, c'est comme ça que c'est quand ça. À la limite, je vais vous dire, j'achèterai peut-être des cryptos quand plus personne n'en parlera. Ça serait bien moi, ça. Mais là, il y a beaucoup trop de monde qui en parle pour que j'investisse là-dedans. Je suis plutôt ours, oui. Enfin, non, parce que les ours, c'est un peu différent. Les ours, parce que tu peux faire de l'argent à la bourse sur des valeurs, tu peux miser sur le fait qu'une valeur va perdre. Et ça peut te faire gagner de l'argent. C'est très compliqué à vous expliquer, mais voilà, c'est être bearish. C'est une autre manière de gagner de l'argent. Moi, j'achète les trucs dont plus personne ne veut. Voilà. Je suis un gros futé, non, parce que ma prise de risque, et je me suis planté, hein. J'ai acheté aussi des boîtes qui se sont cassées la gueule. C'est le risque quand tu fais ma technique. Mais après, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Allez, on continue les articles. On enchaîne. Merci Tofu de me ramener dans le droit chemin. Les ventes de l'Apple Watch explosent ou, a priori, explosent. Pourquoi je dis a priori? C'est que vous savez qu'aujourd'hui, Apple... regroupe les résultats de l'Apple Watch dans la même catégorie, par exemple, que les AirPods, les casques Beats, tous les autres trucs, en fait. C'est la catégorie « autre » chez Apple. Donc, ce n'est pas compris avec les iPhones, les Macs, etc. Mais il n'y a pas, pour l'instant, dans la manière dont Apple présente ses chiffres, une catégorie spécifique à l'Apple Watch. Mais on peut quand même extirper, vu l'augmentation effectivement de la catégorie autre, résultat de 5,5 milliards de dollars, donc sur cette catégorie composée des Apple Watch, Beats et autres accessoires. On sait hein, que les AirPods ont très très bien fonctionné. C'est un accessoire qui s'est très très bien vendu. Les AirPods, mais à eux tout seuls, ils ne peuvent pas faire ce résultat-là. Donc, on peut en déduire effectivement que les Apple Watch auraient enregistré une croissance de 50% en termes d'unités en chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre. Donc, ça veut dire, et c'est un peu ce que je vous avais dit dans ma vidéo de l'Apple Watch série 3, pour moi, c'est la première Apple Watch aboutie. C'est l'Apple Watch telle qu'elle aurait dû être dès le départ. Il y a des fonctionnalités, et c'est con, hein, mais la fonctionnalité de mesure cardiaque permet d'avoir un œil quand même sur son rythme cardiaque, sur l'ensemble de la journée. Et c'est un truc, je sais, moi, que je m'en sers pas mal. Ça me permet de mesurer aussi mes niveaux de stress. Et d'aller marcher 5 minutes quand ça monte trop vite. Voilà, des petites fonctions d'hygiène. L'autre truc, et il y a une autre news qui se colle là-dessus, c'est que certaines apps majeures sont en train de fermer sur l'Apple Watch. Pourquoi ? Pourquoi elles ferment ? Parce que, et ça aussi, je l'avais pronostiqué, il y a très peu d'applications, en dehors des applications que Apple met sur l'Apple Watch. Les autres applications, moi, je sais qu'il y en a très peu que j'utilise vraiment. Et voilà, quand on a vu débarquer Twitter sur une Apple Watch, ça vous sert à rien. Moi, je vais même vous dire, les notifications, je les ai vraiment réduites au minimum. J'ai très, très peu de notifs. Je me sers vraiment de l'Apple Watch pour autre chose, quoi. La grosse déception d'Apple Watch, c'est sa non-compatibilité avec l'iPad. Je suis d'accord. Ils auraient dû... ça serait pas mal, effectivement, qu'on puisse faire fonctionner une Apple Watch. Le seul truc, c'est comme ça a besoin pas mal de géolocalisation et que les iPads, la plupart, ne sont pas 3G ou 4G. Bon, ça peut poser un problème. Mais c'est vrai que l'Apple Watch, si on lui met une carte SIM, elle devrait fonctionner avec l'iPad. Je trouve aussi. Mais c'est pas si simple que ça si tu y réfléchis. C'est vrai qu'en termes de santé connectée, alors, j'aime pas exagérer les choses, c'est pas non plus un truc, vous pouvez pas montrer les résultats à votre docteur, il en aura rien à foutre. Mais ça vous permet, vous, au quotidien, d'avoir un œil sur la progression, j'insiste sur cette idée de progression, de vos petits efforts santé pour vous maintenir, d'avoir une certaine hygiène santé. Parce que ça va mesurer un petit peu ce que vous faites tout le long de la journée. Vous savez, il y a des jours où on se dit, putain, j'ai rien branlé de la journée, c'est nul, putain, il faut que j'aille faire un footing et tout. Et vous ne vous rendez pas compte qu'en fait, c'est une journée où vous avez monté plein de fois les escaliers, si vous avez fait du sport. Et d'autres jours, vous dites, ah, waouh, j'ai fait mon footing de 10 minutes avant de m'arrêter au bar et prendre une mousse. Ah là là, j'ai fait mon sport de la journée. Et en fait, non, c'est une journée où vous avez moulé et vous n'êtes pas assez levé ou ce genre de choses. Voilà, c'est en ça qu'une Apple Watch peut vous donner une vraie info de monitoring. Il n'y a pas Spotify. Tu peux contrôler Spotify avec ton Apple Watch, mais moi, je sais que je contrôle Google Music. Par contre, effectivement, je ne peux pas mettre de la musique Google Music sur mon Apple Watch. Elle reste sur mon iPhone. Il n'y a que, je crois, Apple Music où tu peux mettre, pour aller faire ton footing juste avec ton Apple Watch, je crois qu'il n'y a que Apple Music qui permet de ça. Mais sinon, on peut contrôler sa musique en cours hein, sur Spotify avec l'Apple Watch. Hein. Mouler, ça veut dire rester comme une grosse moule dans son canapé. En anglais, c'est potato couch. Ah, on me dit, il n'y a pas les playlists sur Spotify. D'accord. Oui, de toute façon, on le verra dans un article de fin. Apple et Spotify, ce n'est pas non plus la grande entente. L'option 4G est toujours payante. Aux dernières nouvelles. Putain, oui, d'ailleurs. Merci. Il faut que je pense à la résilier. Allez, on continue dans les articles. Amazon a déposé un brevet pour que ses assistants personnels Alexa puissent ignorer quand on les appelle Alexa. What ? À quoi ça sert ? Eh bien, c'est très simple. Vous le savez peut-être, mais aujourd'hui, c'est le Super Bowl. Et pendant le Super Bowl, il va y avoir plein d'annonces. Et l'année dernière, il y avait eu cette annonce où une agence de pub s'était amusée à faire réagir tous les Alexa. J'espère que personne d'entre vous n'a d'Alexa, parce que là, je vais le dire plein de fois. S'était amusé à faire réagir tous les Alexa comme les gens ont la télé à fond pour écouter le Super Bowl, ils avaient balancé une pub où ils interpellaient les Alexa des gens. Ils ont développé un système chez Amazon qui va permettre à votre Alexa de détecter quand c'est une commande qui est transmise par des haut-parleurs ou par voilà, pas par une voix. C'était cette nuit, victoire des Eagles. D'accord, j'ai même pas suivi. pour pouvoir identifier en fait quand c'est une voix humaine et pas, enfin une voix humaine, une voix directe ou une voix qui est transmise par des enceintes. Alors, c'est pas, ça ne sera pas fiable à 100%, mais ils disent que ça sera suffisamment fiable pour la plupart des gens. Je pense que ça viendra aussi. D'ailleurs, ça sera peut-être un test intéressant sur la qualité de vos enceintes haute fidélité. Si vous avez des assez bons haut-parleurs ou un assez bon système, vous arriverez à tromper votre Alexa. Vous imaginez ce test-là ? Est-ce que j'arrive à tromper mon Alexa avec mon système ? Ça serait un bon test, mine de rien. Faudrait que je demande à Pépé Garcia si c'est possible, ça. lui qui s'y connaît bien en son. Voilà, en tout cas, assez utile. Et vous le savez, hein, quand moi, je me mets à dire des trucs, mais je ne le ferai pas parce que je ne suis pas méchant, mais où il y aurait le mot S-I-R-I dedans, ou que je dis un truc avant Google, je risque de faire réagir les choses chez vous. Apple n'aime pas conclure quand même. En tout cas, non, non, je ne vais pas le dire. C'est pas drôle. Non, ça peut être chiant. Ça peut être chiant. Mais c'est vrai que c'est con, mais on a quand même besoin de ça. Que ces assistants deviennent un peu plus futés pour savoir qui leur parle. Autre news, Marion, on avait un petit peu parlé, mais là, les choses s'organisent. Vous l'avez peut-être entendu la semaine dernière ou lu la semaine dernière. D'anciens employés de Facebook et de Google commencent à dire « Est-ce qu'on ne serait pas allé un petit peu trop loin à l'époque où on travaillait chez Facebook, chez Google, sur, vous savez, cette équation, je vous avais parlé de la dopamine, de tout ça, qui font que les algorithmes de ces réseaux sociaux, de ce web en général, est basé sur comment captiver et maintenir le plus longtemps possible notre attention. C'est comme ça que ces boîtes font de l'argent, c'est en nous gardant, avec le neuromarketing effectivement, en nous gardant captifs le plus longtemps possible sur ces réseaux sociaux, et que il y a une forme de manipulation, ne nous cachons pas derrière un petit doigt, il y a une forme de manipulation de masse de nous captiver. Et c'est pour ça que je parle de dopamine, parce que ça, c'est a priori complètement prouvé scientifiquement. Le plaisir que vous éprouvez quand quelqu'un like un de vos articles ou qu'il y a une forme de récompense virtuelle sur ces réseaux sociaux, vous arrivez à avoir un petit peu d'attention de votre entourage ou ce genre de choses, libère dans votre organisme de la dopamine qui génère une forme de plaisir qui est assez addictif. Donc, vous avez envie de le renouveler le plus souvent, ce qui va vous inciter à aller le plus souvent possible sur ces réseaux sociaux et faire que la moindre seconde où votre cerveau n'est pas mobilisé à 100%, on le voit, hein, et je suis le premier. Si je vous en parle, c'est que je suis aussi addict. Je suis le premier à... voilà, quand j'ai un temps mort, boum, le réflexe, c'est le portable qui sort de la poche. Hop, je vais voir, tiens, j'ai eu combien de likes sur ma dernière photo Instagram? Ah, tiens, et lui, il a fait quoi? Ah, tiens, il y a quoi? Enfin, voilà, on est complètement actif. Vous le voyez si vous avez des enfants aussi, c'est très, très difficile de leur faire lâcher leur smartphone et les réseaux sociaux. Et par rapport à ça, d'anciens employés de ces sociétés commencent à dire, on est peut-être en train d'aller trop loin. Et vont organiser effectivement un certain nombre de manifestations et de lobbying pour qu'on commence à avoir un pare-feu, en tout cas à limiter un petit peu et à réfléchir en tout cas sur les effets à long terme sur nos sociétés de ces réseaux sociaux. Moi, ce que j'ai juste peur quand j'entends ça, c'est que s'il y a une chose que j'ai compris sur la nature humaine, c'est qu'elle est rarement modérée. Et je trouve ça très bien qu'il y ait un contre-mouvement des réseaux sociaux, mais j'ai un peu peur que ce contre-mouvement, et je n'ai aucun doute, que ce contre-mouvement contre les réseaux sociaux va prendre de l'ampleur et même peut-être devenir la tendance générale dans quelques années. Mais le problème, c'est comme on n'est pas très modéré, on risque de jeter le bébé et l'eau du bain. C'est-à-dire qu'on va passer d'une société addicte aux réseaux sociaux à une société qui rejette complètement les réseaux sociaux. Or, ça serait extrêmement dommage, parce que les réseaux sociaux nous ont apporté aussi énormément de choses positives, en tout cas, moi, c'est mon avis, pour peu qu'on les utilise bien et qu'on les maîtrise, qu'on les domine, hein, comme un cheval. Voilà, les réseaux sociaux peuvent vous porter loin, mais il faut les tenir par la crinière. Et peuvent, en termes, aujourd'hui, on a quand même, grâce aux réseaux sociaux, un tissu de connexion à travers l'espèce humaine qui est formidable. L'humanité n'a jamais connu ça. Un exemple tout bête, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez partager des idées, des passions, des choses très particulières qui autrefois étaient limitées finalement par votre cercle physique, vous pouvez les partager avec des gens dans le monde entier. Donc, moi, le cercle physique, c'est quelque chose de très bien, vos amis physiques, des amis à voir, mais c'est rare d'avoir, parce qu'on est limité finalement physiquement dans les gens qu'on peut, avec qui on peut interagir physiquement, et donc c'est assez rare de trouver dans vos cercles d'amis proches et physiques des gens qui vont partager, par exemple, exactement vos passions, avec qui vous pourriez partager. Et en ça, les réseaux sociaux amènent un plus. Le tout, c'est de trouver l'équilibre entre les deux, que ça ne se cannibalise pas non plus. Et voilà, regardez, rien que sur le Slack, les amitiés qui sont formées autour de Nowtech, etc. Et nous, les premiers, quoi. On vous connaît maintenant, ceux qu'on rencontre au Nowtech Drink. Ça, voilà, ça n'empêche pas, d'ailleurs, il va falloir qu'on en organise un bientôt. Ça n'empêche pas les rencontres IRL. Pour moi, ce n'est pas des choses qui s'excluent. C'est ça qui me fait peur dans ce type de réaction. C'est qu'on a vite fait de dire « Ah, c'était mieux avant, rejetons en bloc les réseaux sociaux, c'est de la merde. » Non, ce n'est pas tout de la merde. Ce n'est pas tout de la merde, moi je dis. Allez, dernier article avant une rapide rafale de brève. Le bras de fer, dernier bras de fer de ce TechScope entre Apple Music et Spotify aux États-Unis. Alors, je dis bien, c'est aux États-Unis. Apple Music est en train de... Sa courbe de croissance est supérieure à la courbe de croissance de Spotify. Donc, a priori, l'été prochain, Apple Music aura rattrapé, voire dépassé Spotify aux États-Unis. Je précise bien, parce qu'au niveau mondial, Spotify augmente plus rapidement que Apple Music. Mais quand même, c'est à noter que Apple Music devient un compétiteur de plus en plus sérieux à Spotify et a quand même plutôt bien réussi son coup. Ce qui n'est pas le cas d'autres compétiteurs déclarés de Spotify, qui ne sont pas forcément complètement plantés, mais qui sont loin derrière. Je pense à Deezer, je pense à d'autres. Apple Music... Alors, ça, c'est un truc, d'ailleurs, qui me fait rager. Je n'arrive pas à comprendre ce qui passe par la tête de ces imbéciles de chez Apple quand ils vont nous sortir un HomePod qui ne sera pas compatible Android. C'est d'une connerie absolue, ça. C'était un moyen en or pour faire adopter Apple Music par plein d'autres gens, de s'ouvrir en dehors de l'iPhone. Et là, non, ils ont fermé le truc. On a l'impression de revenir dans les années 90, dans l'ère Steve Jobs, qui mettait des... Vous vous souvenez? Les prises USB avec des talons en plastique pour pas que ça soit compatible avec les autres prises USB. Je peux vous le dire parce que j'ai un tellement vieux clavier Apple que je le regardais, il a une encoche pour pouvoir rentrer dans les trucs USB des anciens Mac, qui étaient les mêmes prises USB. Je me souviens, on limait d'ailleurs cette partie en plastique pour pouvoir brancher d'autres trucs. Ça, c'était la vieille époque Apple, quoi. Pourquoi ils sortent un HomePod qui n'est même pas compatible Android? Mais ils sont cons comme des bites. Excusez-moi, hein, c'était mon petit coup de gueule contre l'HomePod. Vous avez déjà un extrait de notre futur test de l'HomePod. Ah là 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 là, Apple parfois. Hein. Ah, ils sont agaçants. Petite news que je viens ajouter à celle-là, qui je trouve vachement intéressante, c'est que Spotify devient compatible avec Discord. Vous allez pouvoir, si vous avez un compte premium chez Spotify, ça ne marchera pas avec les comptes gratuits, hein, mais si vous avez un compte premium chez Spotify, vous pourrez partager votre musique avec les personnes qui sont sur le Discord avec vous. Donc ça peut être sympa dans un jeu vidéo, par exemple, qu'il y en ait un qui soit chargé de la playlist et qui joue la chevauchée des Valkyries dans votre prochaine partie de jeu vidéo et de partager de la musique. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité que je trouve assez intéressante dans Discord. Discord qui, je le dis en passant, je trouve c'est vachement intéressant ce qu'ils font, Discord. Si le déménagement n'était pas aussi compliqué, mais je commence à réfléchir, on verra. On verra, parce qu'on vous demandera aussi votre avis et tout ça. Ça ne se passera pas tout de suite, donc ne vous emballez pas. Mais je me demande si on va continuer sur Slack ou si on va passer sur Discord. On verra. Mais on ne fera pas les deux en même temps. Si on passe sur Discord, on abandonnera le Slack. Je ne veux pas multiplier les points, mais je trouve que Discord évolue beaucoup plus vite que Slack, en fait, et sur des fonctionnalités que je trouve vachement intéressantes, en fait. Donc, on verra. On verra. Je vous partageais un petit peu mes réflexions. Allez, je fais un peu en laser les brèves de ce matin, les choses que j'avais à vous dire, mais qui ne méritent pas qu'on s'y attarde trop longtemps. Instagram va lancer un mode texte, a lancé un mode texte pour ses stories. Vous pouvez aller voir dans votre Instagram, dans les stories. Maintenant, il y a un moyen de faire des jolis écrans de texte. Attendez, je vais passer juste un petit coup de chiffonnette sur mon iPad. Parce que le café au lait au-dessus d'un iPad et parler pendant une heure, c'est jamais bon pour la vitre. Hop. Un petit coup sur le pare-brise, monsieur. Voilà. Hop. Regardez un petit peu ce que ça va donner. Hop. Voilà. Vous allez pouvoir faire des effets de texte. Il y a une petite vidéo qui va vous décrit un petit peu les nouveaux effets de texte que vous allez pouvoir mettre. Alors, c'est intéressant parce que Instagram, à l'origine, c'était des photos. Mais les stories sont en train de prendre une place de plus en plus importante sur Instagram. Et c'est vrai que tout le monde n'a pas envie forcément de faire une vidéo pour partager quelque chose. Ça peut être assez marrant de faire un truc avec un mode texte. Assez sympa. Assez sympa. Snapchat ouvre une section e-commerce dans son application, donc vous allez pouvoir acheter des goodies Snapchat. Je trouve pas que ça soit un super bon signe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Snapchat qui se met à vendre des saucisses qui dansent en peluche et des sweatshirts avec le petit fantôme. Ça sent un peu le moyen, comment on va faire des sous vite. Ça, voilà. Je sais pas. Mouais. Oh, Caribou, t'étais fan de la saucisse qui danse. Hein ? Une petite peluche de la saucisse qui danse. Hein ? Qui coûte à peine $19.99. Je ne sais pas qui les a conseillés pour faire ça, mais autant un YouTuber qui vend du merchandising, je comprends tout à fait. Et je pense que c'est un des business models possibles pour une chaîne YouTube ou un business model, on va dire, alternatif pour une chaîne YouTube. Autant Snapchat qui, il y a encore un an, avait des prétentions de... Ouais, ça risque de faire des souvenirs collector, c'est un peu ça, quoi. Snapchat... Je sais pas. On l'entend tousser, ça commence à sentir un peu la mort, hein, quand même. Hein. Bon, ils sont pas encore morts, mais ça sent un peu le sapin, comme on dit. Hein. Personnellement, j'y mettrai pas mes sous. Et pourtant, vous avez compris que je suis un beau vautour. Mais un beau... Hein, si vous avez étudié un petit peu les... En fait, j'en sais rien du tout, je vais dire un truc, mais c'est peut-être n'importe quoi. Mais un vautour, il sait déceler la viande qui va le rendre malade et le faire mourir, et juste la viande assez pourrie pour être tendre. Hein. C'est ça, être un vautour en action. Moi, je suis ni un ours, ni un taureau, je suis un vautour. Je suis un putain de chacal. Voilà, chacal, ça va encore mieux. Je suis un chacal boursier. On va tous offrir des saucisses à Caribou. Je vais se retrouver avec des peluches saucisses, je sens. Qu'est-ce que t'as dit, Caribou? Tu la voulais ou pas? J'y mettrais même pas 20 balles dedans. Ah, tu vois, tes vieilles amours. Mais je croyais que ça marchait du feu de Dieu. Ça a eu marché de feu de Dieu. Mais leur business model, il n'était pas tout à fait là non plus, quoi. Ouais, plein de métaphores animalières ce matin. Mais c'est bon, il me reste 5 minutes, Tofu, me mets pas la pression. En plus, je crois que j'ai fini. Ah ouais, j'ai fini. J'avais juste deux brèves. Ah non! Non, non, juste quand même. Faut que je vous le passe, mais je coupe le son. Sinon, on va se faire interdire. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, hein, c'est aujourd'hui la sortie du trailer de Solo, le film sur Han Solo, Solo A Star Wars Adventure. Et si vous avez envie de participer avec mon compte Jérôme Kenbox sur Twitter, j'ai mis un petit sondage où vous pourrez donner votre réaction à ce trailer. N'hésitez pas, et ben merci Samuel de mettre le lien, n'hésitez pas à aller voter pour me donner votre réaction sur ce trailer. Moi, je suis Bruno Solo de Movie. Ah, le film de merde! J'adore Bruno Solo, hein. Mais le... Jean-Pierre Convenant de Movie. Ah, Jean-Pierre. N'empêche, Jean-Pierre Convenant, c'était un super personnage. Putain, ça, c'est un personnage que j'oublierai jamais. C'était bien Bruno Solo qui le faisait, Jean-Pierre Convenant dans. C'était quoi, Pause Café? C'était Jean-Claude Convenant? J'ai dit quoi? J'ai pas dit Jean-Claude? Ah, j'ai dit Jean-Pierre. Bon, ok. Jean-Claude Convenant. Trahi. Énorme. Jean-Claude Convenant. J'adore ce personnage. Bref, allez me dire sur Twitter ce que vous pensez de Solo A Star Wars Story. Est-ce que vous irez voir Solo tout seul? Haha. Bon, ouais, non, c'était pas un matin jeu de mots. C'est pas. Non, il y a des matins comme ça. Je sors. Ok, je fais pas de vie de ton fac alors. Si je sors, je fais pas de vie de ton fac. Et là, j'aurais vraiment fini à ne. Attendez, j'ai même 2 minutes d'avance. Alors, hein, les mauvaises langues qui pensaient que je m'en sortirais pas. Bon, je vous avouerai qu'à la fin, j'ai un peu speedé. Est-ce que ça vous va comme format que je passe plus de temps sur certains articles et d'autres je les passe un peu plus rapidement? Voilà, c'était mon matin animalier. Je peux pas faire des blagues et être animalier. Ça vous va comme ça, le Texcope? Comme ça, on est sûr de le terminer à peu près 9 h. Je ne vous garantis pas que j'y arriverai tous les jours. Mais ça nous laisse 10 bonnes minutes pour faire un fac qu'on va pouvoir commencer. Ma prochaine émission complète vie de ton fac, je ne l'ai pas encore tournée, mais ça va pas tarder. Mais je vous avertirai sur Twitter que vous mettiez bien vos questions. Disons qu'avant, je mettais un peu tous mes articles, mais sans me dire ça, c'est une brève et ça, c'est pas une brève. Au moins, là, je me dirais, cela, je les traite rapidement, cela, je passe plus de temps. C'est plus une organisation personnelle. Je sais qu'il y a beaucoup de crypto hein, en ce moment. Moi aussi, hein, ça me saoule un peu, la crypto. Mais c'est les news. Je ne vais pas, sous prétexte de ne pas vous saouler, éviter, surtout quand même, là, ce qu'a fait les banques, par exemple, ce matin avec les cryptos, c'est quand même une info importante. Je ne vais pas vous priver d'infos sur les cryptos juste parce que ça nous saoule, quoi. Parce que, comme je l'ai déjà dit à certaines personnes, le fait même que les cryptos nous saoulent, parce qu'on en parle trop, est une info en soi, justement. Est-ce qu'il y a une question platinium? J'ai pas l'impression, mon bon Samuel. Il n'y a pas de question platinium. Donc, vous pouvez y aller si vous avez des questions. C'est le moment du petit vide ton fac, si vous avez des questions. Qu'est-ce que tu penses du logiciel de montage Filmora? J'ai jamais testé. Je ne peux pas te dire. J'en ai même jamais entendu parler. Donc, j'en sais rien. Pas trouvé l'horloge sur Apple TV. Alors, attends, je vais te dépanner parce que tu me posais la question. Bouge pas. Je vais retrouver le nom de l'app. Ok, le nom de l'application, c'est The Clock. Tu vois, c'est la petite icône orange là. J'arrive pas à viser. Ah oui, non, mais vous ne voyez pas. Mais il y a une icône orange qui s'appelle The Clock. Voilà. Que penses-tu du Mavic Air? Je pense que c'est un excellent drone. Attention quand même, la qualité d'image ne sera pas équivalente, par exemple, à un fantôme que je vous ai testé sur la chaîne. Ça sera la qualité photo et vidéo d'un Mavic. Donc, c'est juste que c'est un capteur de smartphone qu'il y a dessus. Ça fait des très belles images. Mais c'est un outil semi-pro. Ce n'est pas un outil pro, hein, le Mavic Air. Est-ce que je vais changer d'iPad? Non, je suis très content avec mon iPad Pro. J'ai le dernier iPad Pro. Après, on verra ce qu'ils annoncent, Apple. Mais là, actuellement, je ne vois pas pourquoi je changerais. Il n'y a pas eu d'annonce là sur les iPads. Un Dell XPS 15 est un bon ordi portable pour faire du montage. Je ne le connais pas. Hein. Je suis désolé, le Dell XPS 15, donc je ne pourrais pas te répondre. Ça ne marque pas ton écran de clock? Comment ça, marquer mon écran? Tu veux dire faire des images fantômes? Oh non, puis alors je vais te dire, cette télé, elle a 12 ans, donc je m'en fous. Hein. Avez-vous des envies de live le soir? Non. Justement, ça serait horrible de devoir faire Techscope le soir. Je pourrais pas. Ça serait impossible aujourd'hui dans mon organisation du travail actuel de faire des Techscope le soir. Penses-tu qu'on peut se passer d'une box et prendre à la place un gros forfait data portable et partager les données? Bah, ça dépend où tu habites, mais il y a certains coins de France. Ça dépend ce que tu peux avoir. La 4G, c'est quand même pas mal comme débit. Attention, tu ne pourras pas tout faire avec, mais c'est pas mal. Donc, ça peut être mieux qu'un mauvais ADSL. Ça, c'est sûr. Le XPS reste, alors on te répond hein, dans la chatroom, le XPS reste la meilleure alternative au MacBook Pro. Ceci dit, mais alors par contre, ça sera les mêmes prix que le MacBook Pro, mais j'étais vendredi, on nous a présenté la nouvelle Surface 15 pouces. C'était les gens de chez Microsoft qui nous avaient gentiment invités pour nous présenter à la fois, il y avait le nouveau Surface Book 2 15 pouces. Bien balèze, hein, mais il va coûter assez cher. Hein, c'est 2 500 le prix d'entrée de base. Et ça peut monter jusqu'à 3 000 des brouettes. Donc c'est des prix qui ressemblent à des prix de MacBook Pro. Par contre, c'est vraiment un chouette produit. Ouais. Et j'ai testé du coup, j'avais ma carte de GH5 avec des plans en 4K, 10 bits, 60 images secondes et tout, des gros fichiers lourds. Je les ai mis là-dedans, j'ai ouvert Premiere, j'ai traficoté avec. Ça envoie du bois. Hein. Ça envoie du bois. Ça peut être à mon avis, mais bon, voilà, c'est dans les mêmes types de prix que le MacBook Pro. Donc, après, c'est vraiment une question d'environnement. Moi, c'est à peu près 2 500, c'est à peu près la somme que je vais mettre dans l'achat de mon MacBook Pro qui va arriver. Enfin, que je vais acheter. J'ai pas encore acheté. Mais là, il va falloir. Parce que la batterie de mon MacBook Pro a tellement gonflé que le trackpad ne marche même plus. Ça va me péter à la gueule, cette histoire. Je vous dis même pas. Hein? J'ai vraiment peur, là. De toute façon, je n'ai pas les sous, mais je n'ai pas le choix. Mon MacBook Pro va exploser. Donc, il faut que je le remplace. Existe-t-il une alternative libre pour faire du montage vidéo correctement? Alors, il y a une alternative libre qui est encensée par tous les professionnels, c'est DaVinci. Mais attention, DaVinci, il faut s'y mettre. Hein. Le gros avantage, c'est qu'il est gratuit. En tout cas, pour monter du 1080p. Après, si tu veux monter du 4K et tout ça, il faut payer. Mais il est complètement gratuit dans toutes ses fonctionnalités. Il est juste limité en export dans sa version gratuite. C'est Blackmagic qui fait ce logiciel de montage. Mais attention, hein, DaVinci, c'est loin d'être du montage facile. Hein. C'est une philosophie à part entière. Hein. Tu vas faire quelque chose de spécial pour le Mobile World Congress? Alors, le Mobile World Congress, je vais vous dire, hein, j'ai mon accès presse. Mais je n'ai pas de sponsor pour m'envoyer là-bas. Et je n'ai pas de quoi me payer. J'en ai pas cherché, hein, je vais être honnête. J'en ai pas cherché. Mais non, il est possible. Enfin, il est plus que probable que je n'aille pas au Mobile World Congress. Alors que j'ai mon badge presse. C'est un peu con, mais c'est comme ça. Badge presse, parce que sinon, l'entrée, c'est 2 500 €. Hein. Bientôt un Texcope avec la brigade des sapeurs-pompiers de Paris en direct de chez Géron. Bah, tu crois pas si bien dire, c'est que d'abord, en ce moment, vu que la batterie a gonflé, j'éteins mon Mac dès que je ne l'utilise plus. Et quand je l'utilise, j'ai mis un petit peu de sable à côté. En fait, j'en ai pas mis, mais je devrais mettre un peu de sable. En tout cas, j'ai au moins un truc pour étouffer, surtout pas d'eau, hein, mais j'ai un truc pour étouffer si jamais il y a un problème, quoi. Non, non, mais là, j'ai pas le choix. Je vais m'acheter un Mac cette semaine parce que j'ai pas le choix, là. Ça devient hyper dangereux. Revends le badge press, achète-toi un Mac. Ouais, non, hélas, ça se revend pas, un badge press. C'est lié à ton passeport. Quel logiciel de montage utiliser pour avoir le moins de pertes de qualité possible? Bah, je m'y connais pas beaucoup en logiciel de montage. Moi, je connais que Final Cut Pro, Premiere et DaVinci. Moi, je te conseille un de ces trois-là. Parce que c'est des logiciels quand même professionnels, quoi. Mon Mac, il date de début 2013, mais il a tout donné. Le pauvre, il a tout donné. Il a eu une belle vie, mais il a tout donné, là. Changer la batterie soi-même sur un vieux MacBook Air, ça vaut le coup. Il faut que tu regardes. Moi, je sais que j'ai changé moi-même la batterie sur mon vieux MacBook Pro 17 pouces, qui datait de 2009. J'y suis arrivé et il a repris une nouvelle vie. Je l'utilise un peu. Je l'utilisais pas mal pour Shadow, mais je vais arrêter. Je pense que je vais l'utiliser, même peut-être que vous le verrez en décor, parce qu'il avait la vieille déco de NoWatch. Donc, je l'aime bien. Je n'ai pas envie forcément de le revendre. Mais sur mon MacBook 13 de 2013, j'ai regardé un peu. C'est compliqué de changer la batterie. Et très honnêtement, vu que la batterie a gonflé, je ne prendrai pas le risque de l'ouvrir moi-même. Je vais être honnête. Pour le traitement photo, l'iPhone 10 est-il bon en termes d'ergonomie? Ça dépend du niveau de traitement photo que tu veux faire. Oui, mais c'est quoi ton traitement photo? Tu veux traiter des RAW? Si tu as beaucoup de RAW à traiter, je te conseille quand même encore un ordinateur ou un iPad. Sur un téléphone. Quatre ans, c'est pas beaucoup quand même. Je l'ai vraiment usé jusqu'à la corde. Hein. Et puis attention, c'est pas 4 ans. Hein. Moi, je l'ai depuis début 2013. On est en 2018. Ça fait un peu plus longtemps, quoi. Ouais, si t'as vraiment beaucoup de RAW à traiter sur Lightroom et tout. T'auras pas quand même la souplesse de travail d'un ordinateur pour traiter des gros batchs de photos. Donc j'hésite à te conseiller de prendre juste un iPhone pour faire ça, quoi, quand même. Oui, 4 ans, on utilise. Puis attendez, je ne l'ai pas utilisé juste pour faire du jeu vidéo ou de la bureautique. Hein. Le truc, mon Mac, il souffle toute la journée en calculant des pistes 4K et tout ça. Hein. Donc, non, honnêtement, il a eu une belle vie. Là, il donne ce qu'il peut, le pauvre coco. Mais là, je crois qu'il va falloir. Je vais essayer de le sauver. Hein. Je vais l'amener pour diagnostic une fois que j'aurai mon nouveau, pour voir si je peux changer la batterie et lui donner une deuxième vie. Mais là, il n'en peut plus. Là. Il n'en peut plus. Oh, je ne ferai même pas un enterrement. Je vais vendre ses pièces détachées. Hein. Je n'ai pas fait. J'avoue qu'il y a des Mac. Mon premier MacBook Pro, le 15 pouces que j'ai eu en 2005, j'avais beaucoup d'affect. Là, j'en ai rien à foutre de mon Mac. Aucun affect. Mais alors, aucun. Allez, je prends une dernière question et je vous laisse parce qu'il va falloir que j'aille, j'enchaîne tout de suite derrière sur le rendez-vous tech. Tu as changé tout le plateau du bas de ton MacBook Pro 13 pour 200 euros. Sylvain, tu as changé la batterie aussi ou... C'était quoi la question d'Olivier? Alors, attends, je remonte. Olivier, pour la street photo, je veux m'acheter un appareil photo, mais j'hésite. Fuji X100F, objectif fixe ou Lumix GX80. Je te conseille le Lumix GX80. Prends pas un objectif fixe, même si tu es débutant. Je vais être méchant avec les bridges, mais un objectif fixe. Attention, je ne suis pas en train de dire que les bridges sont mauvais pour faire de la photo, mais si tu veux vraiment t'intéresser à la photo, prends un appareil avec objectif interchangeable. Si après, tu ne veux vraiment pas changer tes objectifs, à ce moment-là, prends plutôt des compacts experts qui vont avoir l'avantage d'être tout petits dans la poche et tout ça. Mais un débutant, même si ça lui mâche une partie du boulot de ne pas avoir les objectifs à choisir, du coup, il va vite se retrouver limité parce que là, un objectif fixe, c'est des zooms. Même les meilleurs zooms du monde n'auront jamais les qualités optiques d'une optique dédiée avec une longueur focale fixe, des grandes ouvertures et tout ça. Donc, GX80. C'est surtout une question de place. Ah, attends, si ta question, c'est pour le mettre en poche, ah bah à ce moment-là, prends un compact expert. Je ne sais pas, le Fuji 100F, je ne connais pas. Mais c'est un compact, c'est un tout petit. Vous savez, vous n'avez rien sans rien. En photo et en vidéo, encore plus que dans tous les autres domaines. Vous avez toujours des compromis à faire. Vous ne pouvez pas tout avoir dans un appareil photo. Si votre objectif, c'est d'avoir un petit appareil photo qu'on met dans la poche avec une qualité supérieure à un smartphone... À ce moment-là, c'est les compacts experts. Vous ne posez même pas de questions. Le GX80, il ne rentrera pas dans votre poche avec ses objectifs. Bah, à ce moment-là, prends le plus petit avec tes objectifs, avec un objectif fixe. Ou prends un Sony RX100 ou ce genre de choses. Ou chez Panasonic, c'est les LX, je crois, qui sont bien aussi. Leurs petits compacts experts. Mais j'ai cru que ta question, c'était avec quel appareil j'apprendrais le mieux la photo. Auquel cas, je t'aurais répondu le GX80. Voilà, voilà. On arrête là pour aujourd'hui. Vous inquiétez pas. Je suis là demain. Je suis là même toute la semaine parce que pas de Marion cette semaine. Non Marion. Marion est en déplacement. Par contre, j'ai Whisky, mais il ne s'est même pas montré pendant le Techscope. Whisky, tu ne veux pas venir... Non, il ne veut pas venir dire bonjour. Il fait la gueule. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain. Passez une bonne matinée tout le monde. Ciao, ciao.